mieux positionnées que les compagnies aériennes en cas de reprise. Des coupes dans les effectifs de 10 à 15% et des baisses de salaire qui restent à définir ont aussi rassuré les investisseurs. Air France KLM, enfin, grimpe de plus de 2% grâce à la promesse du soutien de l'État français. C'était Rémi De Michelis, Investir pour RFI.
Merci Rémi De Michelis. La Bourse de Paris qui termine donc sur un deuxième rebond d'affilée, 1,86% donc en positif à la clôture tout à l'heure. Merci de nous suivre. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver bien entendu sur notre site internet www.rfi.fr. Il est 18h10 à Paris.
Radio G 101.5 FM.
Walking in the midnight sun.
Écoute de l'oreille curieuse, l'émission des actualités culturelles et locales sur Radio G. Ce soir, je vous propose un format d'émission un peu particulier. La semaine passée, nous avons enregistré un entretien avec Nicolas Dufetel, le nouvel adjoint à la culture et au patrimoine de la ville d'Angers. Un entretien qui s'inscrit dans la série de portraits d'élus à la culture de la région, proposée par le pôle de coopération et coordination des musiques actuelles en Pays de la Loire, alias le pôle. Avec Nicolas Dufetel, nous avons parlé de son parcours, de l'énergie avec laquelle il a débuté son mandat et bien sûr des projets et de la politique culturelle qu'il souhaite porter pour la ville d'Angers. Cet entretien dure une quarantaine de minutes, mais il est découpé en trois parties. Et si vous préférez le découvrir touche à touche, je vous propose et je vous invite à aller sur la page de l'émission L'Oreille Curieuse sur le site de Radio G. Et pour écouter les autres portraits d'élus culture de la région, c'est sur le site du pôle, lepôle.asso.fr. Derrière le micro, c'est bien sûr Anne-Lie. Et bien que l'on ne débute pas cette émission en musique, j'ai choisi pour vous le proverbe du jour, à savoir « Trop dire fait rire, bien faire fait taire ». Allez, on écoute cet entretien avec Nicolas Dufetel.
Parole d'élu.
Une série de 10 portraits radiophoniques d'élus culture de nos territoires. Laval,
Saint-Poix,
Nantes,
Saint-Sébastien-sur-Loire,
Le Mans,
Angers,
Saumur,
Sablé-sur-Sarthe,
Pays de Saint-Gilles,
La Roche-sur-Yon.
Des rencontres en amont des ateliers du pôle qui auront lieu le 11 février. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans cette série d'émissions proposée avec le pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire. Le pôle qui est représenté par son directeur Vianney Marzin. Bonjour Vianney.
Bonjour.
Le pôle, c'est une structure qui fédère les différents acteurs des musiques actuelles, que ce soit des artistes, des festivals, des lieux de diffusion.
Sur toute la région des Pays de la Loire, et puis qui a vocation en effet à assurer à la fois une médiation entre les différents acteurs, aussi des relations fluides le plus possible avec les collectivités locales, et puis observer, produire de la connaissance par rapport à tout ce que font les acteurs des musiques actuelles en Pays de la Loire.
Alors aujourd'hui, on est à Angers pour rencontrer l'adjoint à la culture et au patrimoine, Nicolas Dufetel, bonjour.
Bonjour.
Les projets autour de la culture et du patrimoine sont nombreux à Angers. Il y a plein de choses à discuter, à voir ensemble. Là, dans cet entretien, on va un petit peu plus se cibler sur les musiques actuelles, sans se priver d'évoquer tous les autres projets. Alors Nicolas Dufetel, pour vous présenter en quelques mots, vous avez rejoint le nouveau conseil municipal d'Angers et pris vos fonctions en juin 2020. Avant d'être élu, vous êtes musicologue, chargé de recherche au CNRS et directeur adjoint de l'IREMUS, l'Institut de recherche en musicologie. Vous connaissez donc très bien la musique, notamment le répertoire classique sur lequel vous avez mené des recherches. À Angers, enfin, on vous connaît aussi en tant que professeur, puisque vous avez enseigné à l'Université catholique de l'Ouest et la culture musicale au Conservatoire d'Angers. Alors vous êtes d'abord chercheur et je crois que vous ne vous destiniez pas à un engagement politique à l'origine. C'est Christophe Béchu qui vous a proposé de rejoindre son équipe. Pourquoi est-ce que vous avez dit oui ?
Oui, en effet. Alors, je ne sais pas si je peux dire que je suis là par hasard. En tout cas, c'est vrai qu'il y a 3 ans, 2 ans, même peut-être, je ne pensais pas me lancer dans cette aventure qui aujourd'hui me réjouit. J'ai une activité, en effet, de recherche, d'enseignement, une activité associative dans le domaine de la musique et du social, de la diffusion ainsi des arts pour tous et dans différents endroits même de France. Mais je suis resté habité à Angers et Christophe Béchu, en effet, en préparant sa nouvelle équipe et en souhaitant finalement faire de la culture une de ses priorités, une priorité importante au même titre que la transition écologique et que le renouvellement urbain des quartiers prioritaires, eh bien il m'a proposé de travailler avec lui pour la ville, pour ses habitants, pour donner peut-être une nouvelle énergie finalement et incarner comme ça cette priorité qu'il avait donnée à la culture. Et il le dit, il voulait quelqu'un de plutôt jeune, ça, c'est de moins en moins vrai, mais il voulait aussi quelqu'un, dit-il, de professionnel de la culture. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais en tout cas, en effet, mes passions sont aussi mes activités professionnelles et elles sont dans le domaine culturel.
Ouais, alors avec quelle vision, avec quel désir aussi vous êtes arrivé dans ce mandat-là pour la culture, le patrimoine ?
Il y a déjà quelque chose sur Angers, c'est que on ne part pas de rien et loin de là. C'est-à-dire que la première tâche, je pense, et la première mission, puisque c'est une mission d'être élu, hein, ça n'est pas un travail, en tout cas ça n'est pas un métier, ça prend beaucoup de temps, mais c'est une mission, c'est de réussir à gérer l'héritage des très bonnes politiques qu'il y a eu par le passé, c'est-à-dire les transformer, les emmener sur des nouvelles énergies, mais aussi impulser de nouveaux projets. Et voilà, je pense que ce sont ces deux grandes directions. On ne part pas de rien à Angers, on a plusieurs belles décennies derrière nous, et c'est d'essayer d'enclencher des projets qui vont faire qu'on va pouvoir regarder le présent et puis les quelques années à venir avec ambition et puis envie de partage pour tous.
De par vos recherches, votre parcours, on l'évoquait, la musique a sans doute une place importante dans votre vie, dans votre vision des choses. Pour autant, comment est-ce que vous envisagez la politique culturelle à l'échelle de la ville en prenant en compte la coexistence et la diversité des pratiques culturelles ?
Alors, c'est une très vaste question. Ma pratique et mon amour de la musique est aussi celui qui incarne en quelque sorte l'idée que la musique est société. Je veux dire, on le trouve dans les textes de la philosophie antique, l'harmonie de la cité, l'harmonie de la philosophie. Elle est représentée par le fait de faire de la musique de façon individuelle, mais aussi collective. Il faut s'entendre avec les gens qui pratiquent cet art. Et puis, c'est aussi le partager avec beaucoup de personnes. Et la musique est au carrefour finalement de beaucoup de disciplines artistiques, que ce soit l'opéra, qui est théâtre, qui est mise en scène, que ce soit le cinéma, que ce soit l'art plastique, que ce soit les arts visuels. Il y a vraiment en fait cette notion de partage, de découverte absolue dans tous les domaines, et aucun art n'empêche jamais l'autre en fait. Et ces correspondances, hein, pour prendre même un peu une terminologie, on va dire baudelairienne en termes de poésie, à mon sens, elle est essentielle dans une ville comme Angers, qui est une ville avec beaucoup de patrimoine, beaucoup d'histoire, beaucoup de professionnels, des scènes nationales, une grande scène amateur, au sens noble du terme, que ce soit dans la musique, mais aussi dans les arts plastiques, dans le street art. Et c'est d'essayer de faire que notre ville soit un petit peu une cité où les artistes qui sommeillent dans chaque citoyen correspondent avec les artistes qui en font leur métier.
Donc peut-être de mettre la pratique au cœur de cette politique.
Oui, ouais. Beaucoup de pratique, beaucoup de diffusion. Alors malheureusement, je vous parle là dans une période où on en est empêché. Et malheureusement, les musiques actuelles font partie des secteurs les plus empêchés, hein, par leur façon d'exister. Mais c'est cette idée, en effet. Et on souhaite vraiment mettre tout en place pour que cette culture qui nous fasse faire cité, société, eh bien, elle puisse pas redémarrer, parce qu'on continue à travailler, mais en tout cas se repartager avec le plus grand nombre sans restriction.
Quand on parle de culture, de patrimoine, il y a bien sûr des enjeux de création, d'expérimentation, de recherche, de diffusion, enfin des choses liées vraiment à l'aspect culturel. Mais les enjeux d'une politique culturelle à l'échelle d'une ville, ils sont aussi plus vastes. Ça peut concerner la question économique, l'attractivité d'une ville. Quels sont ces enjeux-là, ou en tout cas comment ces questions de création vont rejoindre d'autres enjeux dans votre
mandat? Je pense que vous avez, oui, merci, vous avez utilisé un mot qui est fondamental, c'est la création. Je veux dire, il y a le passé, les traditions, les questions de répertoire. Il y a l'avenir, mais en tout cas, la culture, elle se fait au présent. Et c'est l'idée de création même qu'elle regarde vers l'avenir, qu'elle regarde vers le passé, qui incarne la vie tout court culturelle. De façon très concrète, on va mettre en place une bourse d'art visuel avec un montant pour accueillir tous les ans un ou des artistes à Angers pour développer en fait cette pratique. Alors ça peut être des artistes du territoire, mais ça peut être aussi des artistes de la région qui vont venir, puisqu'on a aussi finalement cette envie de rayonner, mais d'attirer. Dans le domaine des musiques actuelles, alors il y a la participation naturellement de la ville à notre SMAC, au Shabada, qui est conséquente, mais le service culture à la ville d'Angers a aussi un dispositif à hauteur de 54 000 euros, que j'ai d'ailleurs fait revaloriser un petit peu, pour accompagner en direct certaines structures. C'est un dispositif qui s'appelle Partez en live, et qui accompagne des dizaines de partenaires. On l'a maintenu cette année, on a basculé sur des questions de captation naturellement en ce moment. En tout cas, on a maintenu les budgets pour que on puisse tout simplement faire, enfin que les artistes fassent leur travail. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ils sont un peu empêchés de le diffuser, mais en tout cas, la création peut toujours avoir lieu. Mais il faut vite quand même qu'on puisse rouvrir les portes.
Nicolas Duftel, pour préparer cet échange, nous vous avons demandé de choisir deux titres. Ouais. Et le premier pour vous présenter. Alors, qu'avez-vous choisi?
Alors, j'ai choisi That's My People de NTM.
Ouais. Et pour quelle raison?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'aime ça. Je pense que la question de la musique ne doit pas être toujours intellectualisée, mais vécue dans le corps, dans les sens. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ça m'intéresse tout simplement parce que, au début, vous allez entendre des petites notes de piano. Il va y avoir en fait un sample qui va être mis en boucle. Ça, déjà, c'est un phénomène qui ne date pas des musiques actuelles. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Vivaldi, qu'on retrouve dans les premières musiques même de l'humanité non écrites, phénomène de répétition, de transe, d'extase, d'hypnose. Donc c'est mis en boucle. Et en plus, ces petites notes de piano, elles viennent d'un prélude de Chopin. Et pour moi, c'est une façon, à travers cette œuvre, That's My People, dont en plus on pourrait parler du texte, on pourrait parler de techniquement, de montrer qu'il n'y a pas de frontière en fait dans la création musicale. Ici, NTM reprend du Chopin. Et une fois que vous l'aurez entendu, peut-être que vous n'entendrez plus que ça, d'une certaine façon. Et puis la troisième raison, c'est parce que ça pose aussi la question de la place de ces musiques dans les scènes de musiques actuelles aujourd'hui. Donc voilà, il y a une raison affective et puis une raison, on va dire, intellectuelle, mais j'ai l'impression de faire mon métier là, en fait.
Fumer les spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou mais c'est comme ça, je me nourris ça. J'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça. Je suis sur le mic, mec, et puis j'aime ça. J'aime quand ça fait pas, quand ça vient d'en bas. Et puis quand c'est pas, pour finir les chais. Trop sophistiqué, c'est péché. Je préfère m'approcher de la vérité sans tricher. Jamais changer mon fusil d'épaule et puis garder mon rôle, tenir la tôle, rester en pole. Position peu confortable mais c'est pas grave, j'aime le challenge. Porter le maillot, frapper du saut de ceux qui dérangent est un honneur pour moi, comme pour tous mes complices, mes compères, mes compasses. Fatigué de cette farce, on veut plus subir et continuer à jouer les sbires. Sache que ce à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent. Mes kiffs c'est de chiller, ouais. Rester tranquille au sein des miens, me laisser aller à déballer. Des conneries parlent juste pour parler. Pour faire le monde avec notre vision décalée. On est des faux, bloqués dans des cages d'escalier. Pris en otage, je parle le nombre élevé de paliers. Et à la longue, mec, je t'assure, tout ça, ça pèse. 96, je vois toujours des braises allumées. Dans les yeux fatigués, des gosses du quartier. Passe le mic. Je développe mes idées contaminées. C'est vrai, je suis miné, mais déterminé à ne jamais vraiment lâcher l'affaire.
Qu'est-ce que tu peux faire?
Je suis pas là pour
prendre des cours, bien même pour me taire. Si le FN rend sa flamme, je suis là pour l'éteindre, c'est clair. Pas d'éclair, gêné, c'est un lyrics qui jaillit de mon esprit, dédicacé à mon passé. Excuse au fait de prendre de l'âge. Si je sens pas les miens autour de moi, putain, c'est naufrage assuré. Ouais. C'est vrai, je me sens rassuré. Ouais. Qu'en présence de ceux que j'aime, je veux m'assurer que tout ce que je balance soit approuvé. Même si j'ai rien à prouver, je veux que tous mes potes puissent se trouver. Je veux pouvoir les garder près de moi, les regarder 12 mois par an. L'ont fait mes parents pour moi. Parce qu'après, c'est trop tard. Faut pas comprendre qu'on les aimait une fois qu'ils sont ibas. Ou bien c'est que t'as envie de pleurer. Plutôt tu sais pas, dans ce cas je peux rire pour toi. J'ai pas la clé du bonheur, j'ai même jamais été à la hauteur. Mon genre de truc, mais aujourd'hui j'ai peur. Car l'horloge a tourné,
écoutez Radio G et en ce moment c'est l'oreille curieuse. Alors de retour en plateau pour notre entretien avec Nicolas Duftel, adjoint à la culture et au patrimoine de la ville d'Angers. Un entretien mené à l'initiative du pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire, toujours représenté par Vianney Marzin, son directeur. Nicolas Duftel, un des projets de grande ampleur en ce moment pour le mandat et même ensuite, c'est le déménagement du Chabada, qui est une des premières SMAC en France, qui est une salle importante pour Angers, qui va déménager au niveau de la Plaine Saint-Serge, dans un quartier qui se transforme également. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier et vous, qu'est-ce que vous souhaitez pour le futur du Chabada?
Alors vous le disiez, en effet, il y a plusieurs grands chantiers hein, qui ont été annoncés par le maire et qui sont tous en cours de programmation, de lancement. Je voudrais juste mentionner le grand chantier de la bibliothèque municipale Toussaint. Toutes les bibliothèques de quartier ont été rénovées ou sont en cours de rénovation et nous allons terminer en fait par rénover complètement, ouvrir cette bibliothèque Toussaint sur le jardin des Beaux-Arts pour les 40 prochaines années. C'est un équipement qui a 40 ans, il faut le refaire. Un autre équipement qui a presque 40 ans, un petit peu moins quand même, c'est la SMAC d'Angers, c'est le Chabada, salle affective, 94, hein, c'est-à-dire il y a
un petit moment.
Un petit moment. On dépasse le quart de siècle pour tout ça. Et d'ailleurs, techniquement, on parle plus de la construction d'une nouvelle SMAC que d'un déménagement du Chabada. Je veux dire, parce qu'il faut rappeler en fait que nous avons la chance à Angers d'avoir ce label national, une scène de musique actuelle, la SMAC. Et c'est une nouvelle SMAC que nous allons construire, en effet, sur la Plaine Saint-Serge. Les réflexions sont en cours. On souhaite naturellement l'inaugurer avant la fin du mandat. Espérons par exemple 2025. Ça serait bien. Alors c'est un énorme chantier hein, de construction de milliers comme ça de mètres carrés. Je rappellerai aussi que cette SMAC, l'actuel Chabada, il ne fait pas qu'un travail de diffusion. Il accueille aussi beaucoup de répétitions pour des professionnels, mais aussi pour des amateurs. Il a une activité d'action culturelle avec les écoles. Si ma mémoire est bonne, c'est près de 3... Alors, je ne vais pas me baser sur 2020, naturellement, mais 2019, c'était près de 3 000 scolaires qui sont impactés par l'action culturelle du Chabada. Des studios de répétition. Et on ne va pas attendre de construire cependant cette nouvelle SMAC pour travailler sur le sujet. Moi, je suis très attentif aux conditions de travail, en fait, des artistes. Il y a à Angers ce qu'on appelle les studios de la Serre Claire, qui ont été faits dans les années 90, je crois même, qui précédaient l'établissement de la SMAC. Dès le mois de juin 2020, donc au moment de notre installation, je suis allé voir et j'ai vu des locaux qui, à mon sens, étaient pas dignes. Franchement, d'accueillir des musiciens, des locaux très inactuels pour une musique actuelle. Donc en fait, là, on est en train de construire, d'aménager des nouveaux studios, 4 nouveaux studios qui seront inaugurés cette année, je l'espère pendant l'été, un cinquième qu'on va aussi mettre à disposition, voilà, et dont le Shabada pourra bénéficier. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre la construction de la nouvelle salle pour que les musiques actuelles puissent en fait être pratiquées, que ce soit par les professionnels, mais aussi par les amateurs. En fait, la SMAC, ça a répondu dans les années 90 à une pratique sociale de certaines musiques. On jouait dans son garage, on jouait comme on pouvait, donc il fallait institutionnaliser tout ça. Et moi, je dis toujours attention à l'institutionnalisation parce que c'est un embourgeoisement, finalement. Et donc, il ne faut pas forcément répéter les modèles des années 90, et la SMAC que l'on va construire aujourd'hui, je souhaite qu'elle réponde aux problématiques de 2020 et des années à venir plutôt qu'aux problématiques de 1980-1990. Donc voilà, il y a toute cette réflexion qui est en cours. Il y a une richesse musicale immense à Angers, et voilà, comme je vous le disais, la ville aussi a elle-même, au-delà des 700 000 euros par exemple qui sont mis tous les ans pour la SMAC, ce qui en fait un des plus gros opérateurs culturels de la collectivité, mais il y a des dispositifs directs comme Partez en Live, etc.
Ouais. Là on est à l'étape de concertation pour concevoir cette salle, donc qui se veut aussi plus ouverte, aussi comme un lieu de vie, un lieu de passage. Comment se passe cette concertation et comment les équipes du Shabada sont impliquées dans l'écriture du projet? Parce que c'est elles qui vont investir le lieu, mais qui ne sont pas décisionnaires.
Non, la question se pose pas du tout comme ça, parce qu'avant même de faire de la concertation, il faut qu'on sache au mètre carré près où est-ce qu'on va l'implanter, quel est le terrain qu'on achète, quelle est sa nature. En plus, vous savez qu'on est au bord de la Maine, donc on est sur un endroit inondable, etc. Donc avant même finalement de savoir ce qu'on va y faire, il faut définir au mètre, même au centimètre carré près, où on va la construire, comment on va la construire, quel est le besoin en mètre carré, et ça n'est pas nécessairement le Shabada, d'ailleurs, donc la Drama qui va l'occuper finalement, puisque c'est ce qu'on appelle une DSP, et c'est pour ça qu'en fait on ne fait pas un transfert d'une salle, mais on construit une nouvelle salle, puisque le Shabada est délégataire sur des années. On vient de re-signer naturellement la convention là, donc tout ça en fait est réinterrogé.
Ouais, donc en fait, pour qu'on comprenne, nos auditeurs, nos auditrices, il y a le lieu,
la salle,
construite, réalisée par la ville,
tout
principalement, qui ensuite est administrée, mise
par
en vie, entre guillemets, par une
Exactement.
Association. Aujourd'hui, la Drama.
C'est ça.
Mais on pourrait imaginer que ce serait une autre association.
Bah, tout est ouvert. Tout est ouvert, c'est-à-dire... C'est même en fait légalement, tout est ouvert, puisque ça n'est pas un service public direct, c'est ce qu'on appelle une délégation de service public. Alors il y a différents modèles, hein, je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans ce détail sur la politique des musiques actuelles, c'est peut-être un peu trop technique et trop...
Il peut y avoir d'autres systèmes comme des mises à disposition de bâtis une fois qu'ils sont en effet créés ou identifiés. Et vous parlez du coup de nouveaux enjeux, de répondre à des nouveaux besoins, d'identifier ces besoins. Et même si en effet il faut déjà avoir une certaine avancée dans un projet de bâti, identifier en effet une dimension, et après on sait bien qu'entre ce qui a été prévu et ce qui est des fois construit, il y a évidemment un certain nombre de professionnels qui interviennent et qui du coup vont réajuster par rapport à des contraintes, on va dire, qui se posent au moment de la construction.
Mais ceci dit, aussi des contraintes financières.
Contraintes financières, contraintes voilà, les légales, contraintes aussi de normes qui peuvent exister. Mais c'est intéressant de savoir aussi comment vous identifiez les nouveaux enjeux, justement. Comment vous travaillez sur l'identification des enjeux? Là, il y a en effet un écosystème extrêmement dense sur le territoire, d'artistes, de producteurs, une nouvelle génération aussi de directeurs et de directrices de structures culturelles. Je pense à Mélanie Alétru pour le Shabada, mais il y a aussi au CNDC ou au Quai des personnalités. Alors, c'est pas dans la musique actuelle, mais voilà, qui sont aussi des nouveaux cadres de la culture, on va dire, sur le territoire. Il y a des entrepreneurs privés, il y a Radical, il y a l'Igloo, il y a énormément d'acteurs. Il y a Pai Pai aussi, comme structure qui a un pignon sur rue maintenant, qui s'est installé dans des nouveaux locaux
Clarisse
il y a quelques
Arnoux,
temps.
Enfin, voilà.
Clarisse Arnoux, qui siège aussi au CNN.
Tout à fait.
Comment toutes ces personnes, ces personnalités qui ont sûrement une vision aussi à partager, comment elles sont consultées? Est-ce qu'elles sont associées? Est-ce que vous, peut-être que ce n'est pas encore le cas, est-ce que vous...
Alors, il y a deux choses. Déjà, vous avez mentionné, en effet, Mélanie Alétru, Thomas Joly, Noé Soulier, qui font partie, en effet, là, il y a eu un renouvellement. C'était le hasard du calendrier des directions, des grands équipements angevins, des remplacements tous au même moment, qui correspondaient en plus à un nouveau mandat électoral. Donc le choix du maire, ça a été clairement aussi de privilégier ces nouvelles pensées, ces jeunes, très clairement des trentenaires, en quelque sorte, que ce soit le cas de Mélanie, de Thomas et de Noé. Donc, ben en fait, ils sont là avec un programme, très clairement, et là, on les accompagne. C'est-à-dire que c'est très clair, la ville ne dicte pas les choix artistiques, mais il en confie, en fait, les rênes aux personnes qu'elle nomme. Donc, très clairement. Ensuite, sur la consultation, ce qui est un autre sujet, elle doit venir. Comme je vous disais, c'est pas le bon moment, là, techniquement, de faire ça, parce qu'il faut d'abord, comme je vous le disais, matériellement, établir le budget, établir le lieu. Cependant, le Shabada a déjà commencé à travailler, en fait, avec ses rendez-vous, à travailler sur la question, et il va continuer à le faire. Donc ça, c'est hyper précieux. Donc il est évident que dans ce qu'on appelle la phase de programmation, par exemple, leur expertise va être prise en compte, sauf qu'on n'est pas encore dans la phase de programmation. Ce qu'on appelle la programmation, c'est les besoins, etc. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on fait appel aux utilisateurs qui, eux-mêmes, ont travaillé. Et puis, il y a un autre partenaire très important, c'est le pôle, naturellement, vous ne direz pas le contraire, Vianney, qui aussi, au moment de cette programmation, doit intervenir, en fait. Et à mon sens, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est au bon moment, on a besoin, encore une fois, de s'interroger de façon très claire et critique sur... Qu'est-ce que c'est que les musiques actuelles en 2020? Et on construit une salle qui va durer, je l'espère, autant que l'ancien Shabada, qui va donc, mesdames et messieurs, nous emmener jusqu'en 2045. Donc rendez-vous en 2045 pour voir en fait comment on peut faire ça au moins. Mmh. Ouais.
Non, je pense qu'en effet, il faut réussir à trouver le bon bâti pour le bon modèle économique et pour le bon projet artistique et d'éducation artistique et culturelle. Et on a une nouvelle génération de lieux qui se mettent en place. Je pense qu'on est sorti de la course à la taille.
Oui,
par
clairement.
Contre, il faut trouver le bon format.
Mais on souhaite clairement, comme vous le disiez, un lieu de vie. Si je veux dire, ce soit un endroit qui ne soit pas que de la diffusion de concerts le soir, mais qui accueille aussi des répétitions, qui accueille de l'enseignement artistique et culturel. Je veux dire, la notion de tiers-lieu aujourd'hui, elle est centrale, et on voit que les gens, la crise que l'on vit ne fait que renforcer ça, ont envie de se retrouver. Et je pense qu'une SMAC peut jouer ce rôle et doit le jouer, très clairement.
On a encore plein de choses à se dire, mais vous avez quand même choisi un deuxième morceau, Nicolas Duftel. Alors celui-ci pour présenter La Ville d'Angers, où j'imagine que ça a été dur de choisir. Mais
c'était un enfer de choisir deux morceaux, quoi. C'est un très bon exercice. Et un enfer parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qu'on souhaiterait partager. Là il s'agit de Grise Cornac, donc... groupe d'Angers, une chanteuse angevine. Son dernier album Tout baigne, et en fait c'est le titre que l'on va écouter. Là encore, c'est que j'aime ça, j'aime sa voix, j'aime la poésie de ses mots, la sonorité de ses mots, la richesse d'instrumentation qui transcende un petit peu les frontières. Est-ce que c'est de la pop, est-ce que c'est de l'électro, est-ce que... Je pense que beaucoup de musiciens aujourd'hui un peu ont envie comme ça de sortir des carcans esthétiques. La notion de musique actuelle, c'est pas une définition esthétique. Je pense qu'on fait des colloques et des conférences sur le sujet. C'est un mode de fonctionner social, économique. Et puis Grise Cornac, on l'a aussi intégré dans un dispositif qui s'appelle Angers Pousse le Son, qui était une réponse de la ville pour soutenir les musiciens au mois de septembre. C'est des épisodes d'une série musicale avec Yael Naïm, Rosemary Stanley, Astrid Cyrano-Sian, donc des classiques, mais aussi des chanteurs pop, Titi Robin et puis Grise. Et l'idée, c'était de mettre des musiciens non pas dans des boîtes noires, puisqu'on était confinés, mais c'était de les mettre dans des lieux d'acoustique naturelle pour voir comment leur musique finalement pouvait réinterroger les acoustiques de différents lieux. On a diffusé ça sur les réseaux, on est à près de 300 000 vues, mais ceci n'est pas un concert. Ceci est en fait une façon de partager de la musique et de pousser certains artistes, qu'ils soient du territoire, ou d'attirer des artistes qui ne sont pas du territoire pour partager nos beaux lieux, voilà, ces pierres séculaires qui résonnent. Et je vous avoue qu'entendre du rock au Grand Théâtre d'Angers, qu'entendre Yael Naïm au Ronceret, que d'entendre Grise Cornac dans la galerie David d'Angers au milieu de ses sculptures, le phénomène musical, il est tout autre.
On écoute Tout baigne dans l'oreille curieuse sur Radio G.
Tes yeux à fleur de nuit, dans la friche page des libellules divines. Tout baigne, veille que veille vive, nos vagues s'oublient. À la lumière vive le fleuve, et les ombres de nos branches lassent à croire. Tout baigne, les
tout baigne, tout baigne. Et la beauté touche du soir un crépuscule que le monde truc, silence que le diable sucre. Tout baigne, tout baigne. Les épaves molles, nos vagues oublient. Tout rigole, tout rigole, tout rigole dans l'eau de l'œil. Tout baigne, tout baigne, tout baigne, tout baigne. Tout rigole, tout rigole, tout rigole dans l'eau de l'œil. Tout baigne, tout baigne, tout baigne. On se dit pas, tout baigne, tout baigne, tout baigne. Vaille que vaille vivre, nos vagues s'oublient. Tout rigole, tout rigole, tout rigole dans l'eau de l'œil. Tout baigne, tout baigne, tout baigne, tout baigne.
C'est le dernier temps de cet entretien avec Nicolas Duftel, élu à la culture et au patrimoine de la ville d'Angers, qui est avec nous en studio. Vianney Marzin, directeur du pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire, nous accompagne également. Vianney, vous vouliez aborder un autre aspect aussi autour de la vie nocturne.
Oui, en fait, la vie nocturne, mais aussi... Enfin, il y a deux questions un petit peu. Je me dis, quand on est élu comme ça dans une ville comme Angers, qui en effet a été marquée par des politiques publiques proactives, un écosystème aussi d'initiatives privées, associatives, entreprises également proactives, comment on fait pour trouver cet équilibre? Parce qu'on a envie d'agir, je sens, aussi rapidement, directement, par les moyens de la collectivité. Et puis, en même temps, il y a un écosystème privé d'entreprises et d'associations dont il faut tenir compte, d'une part. Donc ça, comment on travaille. Et puis, d'autre part, c'est cet équilibre aussi, une ville qui est à la fois une grande ville, mais aussi une ville de taille moyenne, j'ai envie de dire, et qui a des enjeux à la fois de tranquillité publique, mais aussi de dynamique. Comment vous travaillez, comment vous arrivez à poser le curseur sur ces deux niveaux?
La douceur angevine n'est pas molle, elle doit être dynamique, mais elle doit rester douce aussi. On doit avoir un dynamisme aussi doux à échelle humaine. Oui, la ville d'Angers est une petite grande ville, une grande petite ville qui veut cultiver son art de vivre, sa qualité de vie. Mais dans qualité de vie, il y a aussi diversité des offres et on ne veut pas être une belle endormie. Moi, ce qui me manque terriblement en ce moment, c'est les cafés, c'est le troquet, c'est aller boire mon café, c'est aller boire ma bière, retrouver des amis, entendre un bout de musique. Et d'ailleurs, ça, je ne l'ai peut-être pas assez entendu à Angers ces dernières années, une ville que je connais quand même un petit peu. Il y a des concerts super, je pense aux Jokers chez Jean-Yves, Kerornou, au Terroir Coco, etc. Mais on n'est pas et on n'est plus une ville de café-concert. Et cet été, face à la crise, on a encouragé, on a accompagné des musiciens à se produire sur les terrasses de certains cafés. Ça a bien marché et j'ai envie de dire évidemment que ça a bien marché parce que ça devrait être naturel. Et typiquement, je pense que c'est ce que l'on va essayer de continuer à faire, c'est-à-dire renouer comme ça avec cette énergie, avec ces graines qu'on plante pour que tel ou tel café se saisisse de l'opportunité et du coup de pouce de la collectivité pour programmer des musiciens. En plus, cet été, c'était symbolique, hein, ça leur permettait de ressortir. Les salles étaient fermées, mais les cafés étaient ouverts. Donc, mais en fait, tout ce qu'on a un petit peu testé ces derniers mois, ce sont des choses, je pense, qu'il faut continuer à faire. Donc je rêve qu'Angers devienne aussi une ville où on va au CAFCONS, en quelque sorte. Après, bah oui, il y a la liberté, il y a la question de la tranquillité, mais je pense et je suis convaincu qu'il ne faut pas opposer, mais que tout ça est complètement associable. Enfin, on peut vraiment aller ensemble. On a une bonne marge de progression là-dessus avant de tomber dans les problèmes encore. Donc, on va gérer cette marge de progression, et puis on a encore un peu de voilà de distance avant d'avoir de gros problèmes.
Là, on a entendu qu'il y avait des réponses qui se sont inventées tout au long de l'année 2020. C'est vrai qu'on est dans une période très particulière, très difficile. On l'a évoqué tout à l'heure pour le monde de la culture avec la crise sanitaire. Pour les musiques actuelles, c'est encore plus difficile parce que le être ensemble, le être très proche, ça fait partie de ce qu'on a envie d'y trouver, et c'est normal. Comment, avec la ville d'Angers, comment, au sein de ce mandat, vous envisagez votre accompagnement pour les artistes de musique actuelle, pour les structures, vers un retour à la sérénité, sachant qu'en fait, ce retour-là, il se dessine de plus en plus sur le long terme, finalement.
Je suis malheureusement pas prophète, et j'aimerais l'être. Cependant, je tiens à saluer toutes les initiatives des personnes ressources qui réussissent à pas se réinventer, mais à bricoler, à avoir la souplesse nécessaire. Je pense au Shab Must Go On, qui, après avoir été parfois abasourdi, l'équipe a eu des idées, a redéployé ses budgets sur des captations, sur des lives, en utilisant les réseaux sociaux. Et ça, Mélanie dépense une activité qu'il faut vraiment saluer. Quand elle m'a demandé aussi de mettre à disposition certaines salles de la ville qui pouvaient rester ouvertes, ben on a dit oui, par exemple. Donc, c'était des trucs un peu incongrus, comme j'ai dit tout à l'heure, des musiques actuelles au grand théâtre, ben oui, pourquoi pas, vaut mieux ça que rien. Et oui, il faut s'asseoir à un concert de musique actuelle, ben oui, c'est mieux ça que rien, parce que moi j'ai des gens qui m'ont dit, ah non, hors de question, on doit être debout. Je dis, ben c'est ça ou rien. Donc pour les artistes, pour les intermittents, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi je préfère très clairement, ben oui, m'asseoir pour écouter Grise. Je préfère ça que rien, en fait, en quelque sorte. Et je rêverais de pouvoir vous dire, mais je pense que notre rôle, là, c'est de continuer à assurer non seulement les budgets, ce qui est le cas à Angers, par exemple. Tous les budgets ont été maintenus sur l'année 2020, sur les structures, sur la culture. Je ne vais pas dire à la condition, mais dans le souhait, dans l'accompagnement, qu'on puisse en faire quelque chose. On n'est pas complètement bloqué. La culture, elle n'est pas morte. Elle est ralentie. On a organisé des déambulations musicales avec des batucadas dans les quartiers. On a programmé des musiciens dans la file du Secours Populaire. Mais quand vous allez dans les quartiers, ce sont des gens, en fait, qui très souvent ne vont pas au Shabada, ne vont pas au Quai, ne vont pas au Grand Théâtre. Donc pour eux, la culture, elle est pas morte, et il y en a même peut-être de plus en plus. Et moi, je tiens vraiment à le dire, la culture, elle n'est pas tout à fait morte. Et il faut qu'on maintienne ce continuum pour le jour où on va pouvoir respirer, se retrouver, et retrouver nos libertés, finalement, d'aller partout où on veut pour vivre ces émotions collectives. Je veux dire, que ce soit celle du café, que ce soit celle du théâtre, de la danse, de la musique. Mais je pense que notre rôle, là, c'est de tenir la barre, vraiment, d'accompagner les intermittents, les artistes et les citoyens en leur proposant quelque chose. Un exemple qui n'est pas dans les musiques, mais on a rouvert hier l'Artothèque. Je veux dire, les bibliothèques ont le droit d'être ouvertes, les supermarchés aussi, et puis les galeries privées d'art contemporain aussi peuvent être ouvertes parce que ce sont des commerces. Donc nous, on a un truc qui s'appelle l'Artothèque, on peut emprunter des œuvres, on a le droit de l'ouvrir, donc on l'a réouverte. Respect des normes sanitaires, etc., etc. Et je pense qu'il faut entamer être positif et proactif, finalement, au-delà des phases de difficultés, d'abattement, qui sont réelles chez tout le monde, et elles sont normales parce que nos psychologies sont atteintes. Je pense que le rôle de la collectivité, c'est d'assurer ce continuum.
Peut-être pour finir, j'aimerais aussi qu'on aborde la question du patrimoine immatériel. Vous avez le mandat d'élu à la culture et au patrimoine. Quand on pense patrimoine, on pense tout de suite aux pierres, aux objets, à l'architecture. Mais le patrimoine culturel, c'est aussi des manifestations, des traditions, des choses qu'on récupère et qu'on transmet. Comment est-ce que vous l'envisagez? Alors, vous avez aussi votre parcours de chercheur, mais comment ça peut venir prendre place dans votre rôle d'élu?
Et c'est une question fondamentale et fascinante qui dépend aussi des technologies. Bon, là, Angers vient de vivre une cyberattaque, mais ça montre que finalement la rencontre humaine est nécessaire aussi. Le bouche à oreille, les traditions orales. Par exemple, on a maintenu la fête de la musique avec un live stream de 9h. le 21 juin, avec que des professionnels. C'est-à-dire qu'on a rerouté le budget finalement pour donner aux professionnels la possibilité juste de faire leur métier. Et ça nous a fait une carte postale en 9 heures de la diversité des groupes locaux finalement sur Angers. Donc déjà ça, on forme quelque chose, on forme une mémoire, on écrit finalement une mémoire dont nous reparlerons dans quelques années. Angers pousse le son, c'est une sorte de collection, puisque Angers pousse le son sont des invitations à des artistes à jouer dans des lieux patrimoniaux mis en ligne. On a près de 300 000 auditeurs, spectateurs pour ces épisodes, qui ne sont pas un concert, ça ne substitue pas un concert, mais on va le faire tous les ans, ça va faire une collection, et dans quelques années, on aura comme ça une équipe d'artistes qui ont enregistré dans nos lieux, et qui, je l'espère, seront programmés en plus par tout un chacun, par les structures, qui bénéficieront en fait de cette énergie et de cette création de familiarité entre des artistes et le territoire. C'est ce qu'on disait un petit peu au début, la culture c'est au présent, mais l'histoire aussi elle se fait au présent. L'histoire elle s'écrit aujourd'hui par rapport au passé et par rapport à l'avenir, mais ce qui compte c'est notre vie aujourd'hui, c'est les jeunes générations. Je veux dire, il faut qu'on leur offre comme ça des activités et une mémoire. Finalement.
On sent que ça s'inscrit sur le long terme. Vianney, je ne sais pas si vous vouliez réagir.
Non, c'est vrai que la question du patrimoine immatériel, elle est importante. Elle l'est d'autant plus, je trouve, dans le secteur des musiques actuelles, dans le sens où il y a une génération aussi qui est en train de passer la main à une nouvelle génération. Oui. Donc il y a un enjeu de transmission, un enjeu de transmission de modèles, mais aussi de finalité, de vocation, de valeur. Et donc ça traverse. Il faut que les idées traversent aussi les gens, les personnes et les projets. Mmh. Et quand on a aussi des nouveaux projets de bâti, c'est aussi l'occasion, non pas de faire table rase, mais justement de faire de l'introspection, de revenir un petit peu sur le passé. Il faut faire attention, il faut être vigilant aussi à ce moment-là, de pas tout jeter avec l'ancien bâti. Ça peut être l'occasion de remettre l'accent sur les valeurs qu'il y a derrière les projets.
Et c'est vrai que je suis très vigilant là-dessus, et ça me fait penser en fait à un programme de recherche de deux collègues qui s'appellent Luc Robben, guitariste de Noir Désir il y a quelques années, et Solveig Serre, qui est une chercheuse au CNRS, qui depuis quelques années ont un projet de recherche qui s'appelle Pinned, Punk is not dead, et ils sont en train d'écrire la mémoire du punk qui justement à l'époque se voulait sans futur, et je trouve ça génial, c'est-à-dire de réunir tous ces acteurs des années 80-90. Je rêve qu'ils viennent le faire à Angers. D'ailleurs, je leur ai proposé de venir le faire à Angers.
Vous avez aussi Jérôme Guibert, qui est un chercheur qui a travaillé énormément sur les musiques actuelles et amplifiées, et qui lui-même a aussi tout un travail sur le patrimoine.
Tout à fait.
Il y a beaucoup d'initiatives et de matières à Angers pour avancer.
Sur l'histoire, finalement. Oui.
Je crois qu'on aurait énormément de choses à se dire, et malheureusement on n'a pas un temps illimité, donc je me vois obligée et contrainte de conclure cet entretien. Merci beaucoup Nicolas Duftel d'être venu à ces micros parler de votre mandat d'élu à la culture et au patrimoine à Angers, et tous ces projets pour les musiques actuelles. Merci beaucoup Vianney Marzin pour le pôle de coopération des musiques actuelles.
Merci beaucoup.
Merci à toute l'équipe du pôle et à la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, qui ont rendu possible cet entretien. Parole d'élus, une série de 10 portraits radiophoniques d'élus culture de nos territoires, proposés par le pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire,
en partenariat avec L'Autre Radio,
Radio G, Sun, Prune Radio,
Radio Alpa,
Graffiti Urban Radio
et la Fédération des radios associatives des Pays de Loire.
C'est la fin de l'Oreille Curieuse. Si vous voulez réécouter cet entretien avec Nicolas Duftel, rendez-vous sur le site de Radio G à la page de l'émission où vous retrouverez le podcast. Vous pouvez également vous rendre sur le site du Pôle des musiques actuelles, lepôle.asso.fr, pour découvrir les portraits de 9 autres élus à la culture de la région. Vous trouverez aussi sur le site du pôle des infos sur les ateliers organisés le 11 février. C'est en visio et qui peuvent vous intéresser si vous êtes dans le monde de la musique actuelle. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à faire part de vos retours. Ça se passe par mail avec l'adresse prog.radioG@gmail.com ou via les pages Facebook, Twitter et Instagram. On se retrouve demain à 18h10 avec le Guichet Choral, la chronique cinéma de Céleste, qui nous parlera cinéma bien sûr, mais aussi série.
Il y aura aussi Pierre Hugo et ses mots. Quant à ce soir, pour terminer le programme de votre soirée radiophonique, vous retrouvez à 19h Funkadelica. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.
last one to know. I'm going crazy, how could you be so calm? And these bad dreams just feed on their own. Am I losing you? Why am I always the last one to know?
www.radio-g.fr